La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu en Jésus, le Christ, notre Sauveur. Bienvenue à vous tous ici, dans ce lieu qui est un peu clairsemé ce matin. Je pense que le défilé du 14 juillet n'y est pas pour rien. Le quartier est un peu bloqué partout et donc c'est pas très facile d'accéder ici. Et sans doute ça a rebuté plusieurs personnes pour ce dimanche un peu particulier. Nous sommes donc un jour de fête nationale et nous avons donc une pensée particulière pour tous ceux qui sont en train de fêter ce moment. J'accueille aujourd'hui la famille qui amène ses deux enfants pour leur baptême ici dans ce lieu. Que vous soyez ici dans votre maison, chez vous. Et je suis très heureuse d'accueillir toute la famille qui est avec vous, tous les amis qui sont là. Que vous soyez ici dans votre maison de prière et que vous vous sentiez à votre aise dans ce lieu. Je vous invite à prier ensemble pour entrer dans ce temps de culte. Alors évidemment, il y aura quelques avions sans doute, mais ça va faire partie du culte ce matin. Vous vous souviendrez, hein, n'est-ce pas Enzo, tu te souviendras comme ça, hein, Emma, que le jour de votre baptême, il y avait des avions qui passaient au-dessus de vous. Je vous invite à prier. Père, nous sommes rassemblés ce matin dans ce lieu. Permets que nous soyons aussi dans la communauté de prière que tu souhaites pour tes enfants. Que nous soyons ensemble dans la communion et la joie. Que chacun ici soit compté au nombre des témoins de ton amour pour ce monde. Et que notre foi fasse grandir notre amour du prochain. Envoie ton Esprit Saint sur nous, Seigneur. Je vous invite à nous réunir dans la communion fraternelle avec le premier chant du livret inséré au début des psautiers. Alors j'espère que vous avez tous ce qu'il vous faut. Vous devez avoir deux livres en main, donc le psautier français et le louange et prière. Et au début du psautier, vous avez tous les répons du culte, c'est-à-dire tous les chants que nous chantons entre les prières. Dieu avec le psaume 100, psaume de reconnaissance, lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Je vous invite à chanter notre louange avec le cantique 101. C'est le psaume 101 qui est dans les psautiers français.
Je chanterai, Seigneur, pour
Voilà, écoutons ce que le Seigneur veut pour nous. Nous entendons sa volonté et nous nous asseyons pour entendre ces mots de l'évangile de la première lettre de Jean, un des textes que la famille des deux petits baptisés ont choisi dans la première lettre de Jean au chapitre 4, versets 7 à 10. Frères mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Et voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils, qui a été victime, offerte pour nos péchés. Mais bien aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, nul ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour en nous est accompli. Je vous invite à nous présenter ensemble devant le Seigneur, tel que nous sommes. Et nous confessons ce qui nous sépare de lui avec les mots de Thomas Merton. Délivre-nous, Seigneur, de la paresse qui s'agite, déguisée en activité, de la lâcheté qui accomplit ce qu'on ne demande point, afin d'éluder un sacrifice. Mais donne-nous l'humilité en qui seul est le repos, et délivre-nous de l'orgueil qui est le plus lourd fardeau. Pénètre notre cœur, toute notre âme, de la simplicité de l'amour. Amen. Mais le Seigneur, nous voyant repentants, nous redit sa grâce sans cesse. Et je vous invite à vous lever pour entendre cette grâce renouvelée sur nous et la recevoir dans vos cœurs. Le Seigneur dit : quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Thank you. Je vous invite à vous asseoir et nous allons maintenant accueillir cette famille qui vient nous rejoindre ici, dans ce lieu qu'elle connaît déjà et qui est un lieu important pour tous. Laetitia et Guillaume, vous avez demandé que vos enfants reçoivent le baptême, alors avec les parrains et marraines, vous pouvez vous approcher. L'Église aujourd'hui accueille votre désir avec joie et affirme sa foi avec les mots que vous avez choisis. Et peut-être souhaitez-vous lire cette confession de foi. À l'Église, on n'est plus timide puisqu'on n'a que des frères et sœurs devant nous qui nous veulent tous du bien. Donc, il n'y a rien à craindre. Voilà, parce que cette confession de foi m'a été envoyée par la famille qui a pris le temps de la méditer. Je trouvais normal que ce soit eux qui la partagent avec nous. Je vous invite à vous lever pour accueillir cette confession de foi.
Nous croyons en toi, Seigneur, tu es source de vie. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es source de vie. Nous croyons en toi, Dieu, Père de tous les hommes, Créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Tu as fait l'homme et la femme à ton image. Nous croyons en toi, Seigneur, tu apportes la vraie vie. Nous croyons en ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es vie. Nous croyons en l'Esprit qui vit de toi et de ton Fils. Il soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple dans son Église. Nous croyons en toi, Seigneur, ton amour nous unit. Nous croyons qu'aimés de Dieu, nous sommes tes frères et que notre amour doit s'étendre à tout homme. Nous croyons que sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Nous croyons en toi, Seigneur, tu nous donnes la vie. Nous croyons que la vie des hommes est un sens et qu'il est important d'y réfléchir. Nous pensons que Jésus-Christ est venu nous apporter la lumière en nous parlant de Dieu son Père et en nous invitant à vivre dans l'amour fraternel grâce à l'Esprit Saint. Nous espérons que nos enfants chercheront cette lumière pour guider leur vie.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir et nous allons entendre l'institution du baptême. Donc, la raison pour laquelle nous baptisons encore aujourd'hui, comme le Seigneur nous l'a appris. Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, dit le Christ. Allez de toutes les nations et faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. Laetitia et Guillaume, vos enfants vont être baptisés au nom du Père, qui leur donne le souffle de vie. Ils vont être baptisés au nom du Fils, Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité et qui les appelle à son service. Ils vont être baptisés au nom du Saint-Esprit qui fera naître en eux la foi, l'espérance et l'amour. C'est ce que nous souhaitons. Et je sais que déjà, il y a un grand garçon là qui a déjà beaucoup de tout cela dans son cœur. Il y a de l'eau ici, dans ce baptistère, et c'est de l'eau tout à fait ordinaire, qui n'a rien de particulier. Et pourtant, avec la parole qui va être prononcée sur ce don de cette eau va devenir l'eau du sacrement. Avec la parole de Dieu, elle devient eau du sacrement du baptême, eau d'une nouvelle naissance avec Dieu. Chaque jour, frères et sœurs, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour nos enfants, quand bien même ils ne le comprendraient pas encore tout à fait eux-mêmes. En effet, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. J'invite l'Assemblée à se lever pour être témoin du baptême d'Enzo, qui est ici avec nous. Et je vais demander la question rituelle de ce baptême. Mais avant cela, avant de faire cela, je vais te demander à toi-même, Enzo, si tu es, parce que tu es en âge de répondre, si tu veux recevoir le baptême.
Oui.
C'est très clair. Dieu nous l'a promis, nous sommes à lui et il nous connaît chacun par notre nom. Laetitia et Guillaume, quel prénom avez-vous choisi pour votre fils? Vous pouvez le redire ici, juste avant qu'il reçoive ce signe du baptême.
Enzo.
On va pouvoir aller maintenant? Vous pouvez vous approcher de lui, bien sûr. Regarde-moi, regarde-moi. Non, non, t'inquiète pas, il n'y a rien de difficile là-dedans. On va juste être tous les deux là, entourer tous ceux qui t'aiment et qui t'ont amené jusqu'ici. Et puis tu vas recevoir ce baptême au nom des trois personnes de la Trinité que tu connais déjà. Enzo, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit.
Amen.
Enzo, cette parole est vraie pour toi aussi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils afin que quiconque croit en Jésus ait la vie éternelle. Aujourd'hui, tu viens de recevoir cette vie éternelle. Amen. Vous savez que nous avons eu beaucoup de discussions théologiques ensemble avec Enzo. Donc c'est pour ça que je suis particulièrement heureuse de pouvoir te donner le baptême aujourd'hui. Alors, il y a une petite fille là qui se présente aussi en se disant « Mais peut-être que moi aussi, je pourrais avoir ça. » Alors, Guillaume et Laetitia, quel prénom avez-vous choisi pour votre fille ?
Emma.
C'est ça ? Oui ? Alors, Emma, est-ce que tu veux recevoir le baptême ? Oui. Alors apparemment, il y aurait quelqu'un d'autre à baptiser en même temps, je ne sais pas. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais juste déplacer ça. Tu es prête, Emma? Tu me regardes? Oui, ça y est, on est bien ensemble, là? Oui? Emma, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu dis ? Amen. Voilà, elle m'avait promis. Voilà. Voilà, alors Emma, viens me voir, pour recevoir une bénédiction quand même. Emma, cette parole est vraie aussi pour toi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Aujourd'hui, tu reçois la vie éternelle, Emma. Voilà.
Voilà, je vais maintenant inviter les parents des deux enfants qui viennent de recevoir le baptême à dire l'engagement qu'ils veulent prendre pour leurs enfants. Et c'est Guillaume qui va prendre la relève de son épouse.
Nous souhaitons que Enzo et Emma soient accueillis dans la maison de Dieu afin qu'ils reçoivent sa bénédiction et qu'ils grandissent sous sa protection. Étant que chrétiens, il est important pour nous que nos enfants Enzo et Emma reçoivent une éducation religieuse comme nous l'avons reçue.
Merci beaucoup. Je vais maintenant présenter ces enfants à cette assemblée. Vous voulez venir avec moi être présentés dans l'église ? Oui ? Alors, on y va. Alors, viens, viens Emma. Tu veux venir avec moi comme ça ? Alors, viens. Voilà, je suis très charmée parce que quand même, vous avez vu un peu, elle est sur son 31. Et Enzo aussi. Alors, voilà Enzo et Emma, qui sont vos petits frères et sœurs dans la foi du Christ. Ils sont ici chez eux, dans cette maison de prière, mais peut-être trouveront-ils d'autres lieux où prier, où partager leur foi, puisqu'une partie de leur famille fréquente aussi l'Église catholique. Et nous sommes très heureux qu'ils aient cette double culture et cet apport important. Vous aurez ici le souci de prier pour eux, de prier pour leur famille, de toujours penser à tous ceux qui s'approchent de cette église pour recevoir la bénédiction de Dieu. Si jamais ils venaient à se séparer de l'église, vous affirmerez qu'ils peuvent toujours y retrouver leur place et ce sera ainsi le signe pour eux de l'amour inconditionnel de Dieu. Voilà, peut-être qu'on peut les acclamer, ces deux enfants. Voilà, je vous invite à chanter ensemble le cantique 202, mais avant ça, je vous invite à entendre la prière d'action de grâce pour ces baptêmes. Béni sois-tu, Père de Jésus-Christ, tu es source de la vie et tu nous donnes la joie de créer la vie à notre tour. Tu es de tout ton amour avec nous. Merci pour ces enfants, pour leur venue à la vie, pour leur premier regard, pour leur premier sourire. Guide-nous dans leur éducation pour qu'ils réalisent leur vocation d'hommes et de chrétiens. Amen. Et nous chantons ensemble nos cœurs pleins de reconnaissance, les strophes 1, 2 et 3, dans les recueils bleus, les louanges et prières. Et je vous invite à vous asseoir. C'est des petits cadeaux pour que vous n'oubliez pas ce qui s'est passé ici. D'accord ?
Qu'est-ce qu'on dit là ?
Voilà, je vous invite à vous asseoir. Et ce matin, nous lirons deux textes bibliques dans l'évangile de Marc. Au chapitre 10, les versets 13 à 16. Les gens amenaient à Jésus des enfants pour qu'il les touche de la main, mais les disciples les rabrouèrent. Voyant cela, Jésus s'indigna. Il leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Amen, je vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera jamais. » Puis il les prit dans ses bras et se mit à les bénir en posant les mains sur eux. Et dans l'évangile de Marc, toujours, au chapitre 15, à partir du verset 20. Pour porter la croix du Christ, ils réquisitionnèrent un passant qui vient de la campagne, Simon de Cyrène, près d'Alexandre, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne ». Ils voulurent lui donner du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort ce que chacun emporterait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquait le motif de sa condamnation et portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Hélas, toi qui détruis le sanctuaire et le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les grands prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À la sixième heure, il y eut des ténèbres et sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. À la neuvième heure, Jésus cria « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent. Ils disaient « Tiens, il appelle Élie ». Quelqu'un courut remplir de vin aigre une éponge et la fixa à un roseau pour lui donner à boire, en disant « Laissez, voyons si Élie va venir le descendre de là ». Mais Jésus laissa échapper un grand cri et expira. Le voile du sanctuaire se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas. Voyant qu'il avait expiré de la sorte, le centurion qui était là, en face de lui, dit « Cet homme était vraiment fils de Dieu ». Voilà les deux textes d'aujourd'hui qui ont été choisis avec Enzo dans la discussion que nous avons eue ensemble, chez ses grands-parents. Et nous avons pu choisir ensemble ce texte qui compte pour lui. Je vous invite à chanter ensemble le cantique « Ô Jésus, ta croix domine », 143, les versets 1, 2 et 3. Je vous invite à la prière. Ô Maître, apprenez-moi à faire oraison. Aidez-moi à faire taire mes sens et mes passions, ou élevez votre voix afin que, malgré le bruit confus qui excite en moi, j'entende clairement vos réponses. Mon esprit travaille par son attention, mais souvent ses efforts sont inutiles. Mon imagination inquiète et chagrine de ce que je m'applique à des sujets où elle n'entend rien. Viens à la traverse et dissipe toutes mes idées avant qu'elles aient passé jusqu'au cœur. Verbe fait chair, raison des intelligences qui avaient pris un corps afin de rendre la vérité sensible à des hommes charnels, accommodez-vous à ma faiblesse. Parlez-moi d'abord un langage qui n'effraie point toutes les puissances de mon âme. Vous savez que je veux invinciblement être heureux. Donnez-moi donc, dans l'oraison, l'avant-goût des vrais biens, afin que je les désire. Donnez-moi le dégoût des faux biens, afin qu'ils me fassent horreur. Soutenez par la douceur de votre grâce l'attention de mon esprit. Amen. Et c'est Nicolas Malebranche qui nous partageait cette prière. Je vous invite à vous asseoir. Peut-être est-il étrange de prêcher aujourd'hui un texte qui raconte la crucifixion de Jésus. Nous ne sommes pas un vendredi juste avant Pâques, nous ne sommes pas le jour du Vendredi Saint. Et c'est un jour de joie pour nous qui avons baptisé ces deux petits-enfants. Le premier texte est tout à fait adapté à la circonstance et le second est très triste. Mais c'est justement l'un de ces deux enfants qui a choisi ce texte pour son baptême. Et oui, lors de notre dernière rencontre chez ses grands-parents, Enzo m'a dit que pour lui, le texte qu'il préférait dans sa Bible pour enfants, c'était celui de la crucifixion de Jésus. Très surprise, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu « parce qu'il a fait ça pour nous ». Cela méritait bien que nous nous y arrêtions ensemble, nous autres adultes, ce matin, d'autant plus qu'aujourd'hui est un jour de fête nationale et que la question de cette violence qui est contenue dans ce texte est toujours ravivée les jours où nous commémorons avec des armes, des armées, des moments difficiles de notre histoire et en même temps fondateurs. Le 14 juillet commémore un événement fondateur de notre nation, en effet, à vrai dire, même si dans l'imaginaire collectif, le 14 juillet fête la prise de la Bastille et les événements violents qui se sont produits autour, la réalité est plus complexe que cela. C'est bien le 14 juillet 1789 qu'a eu lieu la prise de la Bastille, mais quand le député Benjamin Raspail, un siècle plus tard, souhaite instituer une fête nationale, en se référant à cet événement, les sénateurs trouvent que l'épisode est trop violent pour constituer le symbole de la République. Ils vont donc retenir le 14 juillet 1790 fête de la Fédération, instituée par Lafayette, comme date symbolique de l'unité nationale. Un symbole donc beaucoup moins violent, plus porteur, et qui signifie une certaine cohésion, une certaine amitié. Dans l'imaginaire collectif, c'est pourtant bien la prise de la Bastille qui reste le symbole fort de la Révolution et qui reste le moment de cohésion de notre État. Et peu importe la violence et la terreur qui s'ensuivirent, puisque l'événement de cet événement violent serait né la liberté, l'égalité, la fraternité de tout un peuple. C'est une étrange chose de vouloir voir dans des événements violents de notre histoire, même si la violence pouvait s'expliquer, l'inauguration d'un temps plus juste, plus libre, plus beau. Sublimer la violence, l'ériger en symbole, est souvent très dangereux et fait naître des idées qu'il faut ensuite combattre. Par exemple, comprendre la mort d'un homme comme le sacrifice d'un seul pour le salut de tous était sans doute le meilleur moyen d'autoriser les uns et les autres à continuer à en sacrifier quelques-uns dans les siècles qui suivirent, pour pouvoir éliminer toute opposition et toute contestation au dogme ainsi établi. Les chrétiens ont eu ainsi, à travers l'histoire, une fâcheuse tendance à faire de leurs meurtres et de leurs massacres des exemples et des actes de purification, en les représentant comme nécessaires au salut d'un royaume, d'une unité nationale ou de la vraie foi. Si l'on pense par exemple à l'affaire Calas, dont Robert Badinter dit qu'il s'agit d'un crime de la justice elle-même, on voit que par haine des protestants, on peut monter de toutes pièces une affaire criminelle visant à prouver que le huguenot Calas a tué son fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Pour parvenir à donner raison à la haine, on va jusqu'à demander aux fidèles, lors des prêches dominicaux dans les églises catholiques de ce temps-là, de s'adonner à la délation publique sous peine d'excommunication. On fait peur aux gens et ils finissent par avoir tous des témoignages édifiants mais faux sur ce que faisait Calas, le fils, quand il venait à l'église. Et comme le dit Badinter, on a assassiné Calas, non pas le fils, mais le père. Pour faire un exemple, pour en faire un exutoire au climat de haine qui régnait à Toulouse en 1761, il a été l'exemple pour tous. À une autre époque et dans un tout autre contexte qu'il ne faut pas comparer, on pense évidemment à l'affaire Dreyfus, bouc émissaire qui permet d'extérioriser l'antisémitisme de certains milieux. Sans doute le protestantisme n'est-il pas exempt d'avoir utilisé de faux coupables pour sa cause, et l'on pense au malheureux Michel Servet, dont aucun chantre de la vraie foi n'est venu sauver la vie quand il était encore possible de le faire. Sans doute était-il utile qu'un opposant au calvinisme meure pour impressionner quiconque essaierait, dans la Genève protestante, la voie de la contestation. Jésus a été lui aussi condamné sous les cris d'une foule qui lui a préféré un bandit, Barabbas. La mort du bandit ne présentait aucun intérêt idéologique. On pouvait donc le libérer sans peine. En revanche, le rabbin encombrant, qui avait tant intéressé les foules, lui, représentait une victime de choix. Et faire de lui un coupable était bien plus utile que laisser punir un véritable bandit. Il faut donc se rendre à l'évidence. La violence est souvent vue comme fondatrice de l'unité des peuples, de l'unité des peuples qu'ils soient civils ou religieux. Se réunir autour d'une violence dans un imaginaire collectif est souvent plus efficace pour fédérer plutôt que de se réunir autour, par exemple, d'un pacte de paix. Le christianisme naissant s'est lui-même constitué comme une idéologie du martyr, et la croix du Christ a été bien vite utilisé comme socle symbolique pour remplacer les premiers symboles plus pacifiques, plus doux, qu'étaient le poisson et le chemin, puisque les chrétiens au tout début s'appelaient les gens de la voie. Avec la croix, on pouvait se camper en victime et fédérer les nouveaux convertis qui souvent se vivaient eux-mêmes comme des victimes d'un pouvoir qui ne les reconnaissait pas. Il y avait donc une utilité à utiliser la violence qui s'était déchaînée sur Jésus. Alors ont surgi des théologies de la croix, des signes de croix, des objets cultuels en forme de croix. Et l'on a fini par en faire un bijou plaisant et luxueux que nous portons parfois, en oubliant que c'est d'abord un objet de torture. La violence de cet outil de torture a fini par devenir non seulement acceptable, mais un symbole de communication d'une efficacité redoutable. Certaines croix clignotent au fronton de certaines églises. D'autres sont stylisées de telle sorte qu'elles ont l'air d'œuvres abstraites et on en oublie complètement à quoi elles servent. L'horreur qu'inspirait ce supplice a été édulcorée et banalisée dans le même mouvement. Et la mort du juste est devenue non seulement un fait, mais encore un bienfait. Et la violence est devenue salvatrice. Que se serait-il passé si le Christ était mort de vieillesse dans son lit? Aurait-il pu être notre sauveur? Sans doute, Paul n'aurait-il pas été touché par le discours d'un vieux sage, rassasié de jour, comme il l'a été par Jésus le crucifié? Sans doute aussi, les évangiles n'auraient-ils jamais été écrits si la mort de Jésus s'était passée en douceur? La violence semble donc constitutive du succès de certains courants idéologiques ou religieux. Pourtant, il existe bien des révolutions tranquilles, des changements notoires de notre existence, de notre monde, et qui sont tout aussi efficaces pour la survie des peuples et des communautés que tous les subreceaux de révolte et de violence qui malheureusement se terminent souvent par de nouvelles privations de liberté et des régimes de terreur. Un bon législateur est parfois un héros, digne de faire des disciples autour d'une cause juste. Revenons à Robert Badinter, qui obtint l'abolition de la peine de mort en France. N'était-ce pas un événement capable de fédérer pour longtemps un peuple tout entier ? Pour lui, la violence faite aux hommes est toujours restée une violence, et la justice fut le combat de toute sa vie. Non pas par fascination du pouvoir de la violence, mais par exécration du mal. Prenons aussi l'exemple d'une autre personnalité importante, dans un autre contexte, Simone Veil. N'était-ce pas une révolution tout aussi importante et utile à notre temps ? De permettre aux femmes de disposer de leur corps et aux citoyens de rompre avec une hypocrisie qui coûtait la vie à beaucoup d'entre elles. On a retenu leur nom, certes, mais ce qu'ils ont obtenu ne serait pas aujourd'hui cité unanimement comme un symbole d'unité de tout un peuple. Sans doute parce qu'ils ne recherchaient pas eux-mêmes dans ces actions leur propre pouvoir, ni le pouvoir de leur idéologie, mais parce qu'ils souhaitaient le bien commun. Sans doute aussi parce qu'ils n'y ont pas laissé leur vie, et heureusement. Faut-il inévitablement un sacrifié pour qu'un temps nouveau advienne ? La crucifixion de Jésus a ouvert un temps nouveau, en effet. Mais c'est au prix de nombreux discours d'apologie, des discours qui ont été créés pour recréer un Jésus narratif, un discours souvent de propagande lié au temps de la création des églises, que la religion chrétienne s'est forgée une identité. Et souvent, cette identité s'est fondée contre les autres, parce que le temps était au conflit. La crucifixion de Jésus a permis d'obtenir une indépendance par rapport au judaïsme qui pourtant était si proche et auquel Jésus lui-même appartenait avant qu'on en fasse un chrétien. Prendre un symbole violent comme fondement d'un monde nouveau, d'un temps nouveau, c'est miser sur la rupture. C'est tuer le passé pour faire du nouveau. C'est ne pas vouloir garder l'héritage. Pourtant, Jésus citait les prophètes, rappelait la loi de Moïse, dénonçait le manque de fidélité de son peuple au Dieu qu'il avait libéré de l'esclavage. Point de rupture dans ses sermons, point de temps présent suspendu dans le vide sans référence aucune au passé, non, mais toujours l'histoire d'un peuple libéré et sans cesse aimé par Dieu. Il prend même les enfants comme exemple pour l'entrée dans le royaume des cieux, signe qu'il ne renie ni l'obéissance, ni l'autorité du Père. Pour lui, pas question de renverser sa religion. Il voulait juste proposer une autre lecture. On a parfois fait de Jésus un hippie, un révolutionnaire, un anarchiste, oubliant même sa foi en Dieu pour en faire un homme sans foi ni loi. Cette transformation de Jésus en une figure violente contre tout système légal oublie complètement combien Jésus condamne, dans ses sermons au moins, la force et la violence. Combien il laisse toujours, dans le dialogue, la possibilité à l'autre de faire ses choix. Mais si Jésus n'est pas une figure de rupture, il n'en reste pas moins qu'il y a bien eu un avant et un après Jésus, un avant et un après la crucifixion, à tel point que nous comptons le temps de notre civilisation à partir de la date présumée de sa naissance à cet homme mort sur la croix. Enzo avait dit vrai, la crucifixion est fondatrice, mais en quel sens fonde-t-elle une nouvelle foi? Quelle révolution représente la crucifixion? Sans doute y a-t-il une pédagogie dans le paradoxe de la croix. La croix reste un scandale, car c'est le juste qui est crucifié à la suite d'un procès inique. Mais c'est aussi une révélation, car cet homme qui meurt ainsi est porteur dans sa souffrance du mal dont est capable le genre humain. Il ne s'agit donc plus de faire de la croix un objet de dévotion, parfois même une breloque, mais d'en faire un véritable langage sur notre condition humaine. Une condition humaine sujette à la violence, peu encline à la justice, même si elle la revendique toujours. Une condition humaine toujours menacée par sa soif de pouvoir. Sans doute Jésus, comme après lui Michel Servet ou Callas ou Dreyfus, n'a-t-il pas cherché à se retrouver victime d'un crime collectif? Sans doute n'y avait-il aucun plan de Dieu derrière ces machinations fatales. Et pourtant, ce déchaînement de violence a fait advenir du langage. Une force aussi puissante que celle de la violence physique. À partir de ce gâchis tragique où des hommes sont morts, un déferlement de mots, de récits, de liturgies, de prières s'est donné comme mission de venir à bout de la violence des hommes, au bout du crime, à bout du mal de tous les hommes. Et l'on a écrit pour essayer de comprendre ce qui poussait l'homme à être si méchant avec ses congénères. Comme l'affaire Callas a donné à Voltaire l'occasion de fonder une autre idée de la justice en criant à l'infamie, l'affaire Jésus, comme on pourrait l'appeler, a permis à des écrivains de fixer à jamais comme une bonne nouvelle la foi de cet homme en un Dieu juste qui libère les hommes, la foi de cet homme en un Dieu dans lequel on pouvait espérer qu'un jour le genre humain serait meilleur. Et c'est dans ses écrits que nous retrouvons l'image du bien capable de renverser le mal. Non pas en faisant une révolution sanglante en tuant tous les opposants qui pourraient nous gêner, mais en étant comme les enfants, dit le texte biblique. C'est-à-dire comme des êtres en devenir qui ont besoin de leur passé comme de leur avenir, mais qui vivent intensément leur présent, qui sont réellement présents là où ils sont. L'événement Christ n'est peut-être pas au bout du compte la croix. Ce n'est peut-être pas cela qui est le plus fondateur, mais plutôt cette scène d'accueil inconditionnel d'un enfant et la mise en valeur de sa condition particulière dans le monde, d'un tout petit auquel il ne faut faire aucun mal. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 400 dans les louanges et prières. J'ai soif de ta présence. Les strophes 1, 2 et 3.
Bonjour à tous. Merci d'avoir fait l'effort d'être venu ce dimanche au temple, malgré les difficultés de circulation. Je souhaite la bienvenue toute particulière et affectueuse à Emma et à Enzo, qui aujourd'hui ont fait leur entrée dans l'Église et dans cette communauté. Merci à Béatrice Cléromazir pour sa prédication. Je vous rappelle que à la sortie du culte, sur la petite table, vous pourrez récupérer le texte pour le lire, le méditer et éventuellement en reparler avec Béatrice à l'occasion. Merci à Aurélien Peter d'avoir accompagné nos chants ce dimanche et à Twimo de l'Ain d'avoir enregistré le culte qui sera disponible dès cet après-midi sur le site de l'oratoire. Dans les 4 prochaines semaines, il n'y aura pas d'enregistrement du culte pour des raisons de congé de notre sacristain et de Twimo, mais vous pourrez trouver les textes écrits des prédications à la sortie du culte. Cette semaine, il n'y a pas de grandes activités puisque c'est la période des congés. Mercredi, pour ceux et celles qui suivent les parcours bibliques animés par le pasteur Patrice Rollin, vous pourrez vous retrouver salle Verne au deuxième étage de la maison presbytérale qui est en travaux pour le parcours biblique qui a comme thème aujourd'hui « La Bible parle-t-elle d'écologie ?». C'est en lien bien sûr avec la réflexion synodale qui nous examinons un certain nombre de points et mercredi prochain, 17, à midi et demi, des limites libératrices, un extrait du livre du Lévitique au chapitre 25 sera donc commenté, étudié par le pasteur Patrice Rollin. Dimanche prochain, c'est le pasteur Nicolas Cochan qui présidera ce culte. Il y aura une scène, sainte scène, qui sera co-célébrée par Béatrice et Nicolas. Voilà pour ces annonces. Je vous souhaite à tous et à tous un bon dimanche. Et maintenant, c'est le temps de l'offrande.
Je vous invite à la prière. Seigneur, donne à Enzo et à Emma de porter ta joie et ta paix durant leur vie. Qu'ils te découvrent toujours davantage et que par la grâce d'une éducation humaine, ils soient toujours à ton exemple, Seigneur. Le baptême d'Enzo et Emma est l'occasion d'une fête familiale. Accorde à toutes nos familles d'être unies, accueillantes pour la vie, et de progresser sans cesse dans ton amour et dans l'amour du prochain. Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent, tous ceux qui en ce moment connaissent des situations difficiles ou douloureuses. Nous les portons dans notre cœur et nous prions pour eux. Nous te confions ce matin particulièrement les familles en deuil et particulièrement dans cette église, la famille Devaux, la famille Mattei et la famille Morel. Permets, Seigneur, que nous soyons attentifs à la consolation de tous. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, ce temps de culte était un temps de halte, un temps pour réfléchir, un temps pour prier, un temps pour se tourner vers Dieu, un temps pour se laisser aimer par lui, et bien sûr un temps pour accueillir des tout-petits qui s'approchent de nous. Maintenant, il faut sortir, aller dire au monde qu'il y a d'autres voies que la violence pour faire naître un nouveau monde, et vous êtes porteurs de cette parole. Recevons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur qui fait grâce, vous fait grâce aujourd'hui et pour toujours. Amen. Voilà, je vous invite à prendre du temps, si vous le pouvez, vous asseoir tranquillement et écouter notre organiste qui a sans doute préparé pour nous une pièce de choix. Et je vous invite, pendant que nous écoutons l'organiste, à signer les registres du baptême. Et donc j'ai invité les parents d'Emma et de Enzo à venir signer ces registres. Merci.